Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Nous sommes dimanche soir, la journée se termine en douceur, emportant avec elle cette semaine passée. C'est l'heure où la nuit s'installe, l'heure où l'on se pose pour parler, pour écouter. C'est l'heure des confidences. Au fil de nos échanges, nous nous rendons tous compte que l'un des principaux problèmes que nous rencontrons, c'est le manque d'estime de nous-mêmes et le manque de confiance. Avoir de l'estime pour soi-même, c'est penser que l'on a de la valeur, c'est aussi croire en notre chance. Mais comment croire en soi quand les gens qui nous ont élevés, entourés, accompagnés, que ce soit en famille, à l'école ou plus tard au travail, ne nous ont jamais renvoyé une belle image de nous. En moyenne, dans notre société, on reçoit 8 critiques, reproches, réflexions négatives pour 2 compliments. Ça veut dire que vers l'âge de 20 ans, on a déjà reçu plus de 20 000 critiques. Et comme c'est pendant notre enfance que 80% de notre identité se fabrique, ça ne nous facilite pas les choses. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas réécrire le passé, me direz-vous. Eh bien, figurez-vous que si, on peut. On peut faire un pas de côté, on peut revoir et comprendre les choses différemment, avec toute l'expérience et la maturité que l'on a aujourd'hui. On peut prendre son enfant intérieur par la main et soigner ses blessures, lui redonner confiance en lui et en la vie. Alors si vous avez envie de faire ce pas de côté, ce soir, envie de venir me parler d'un problème de manque d'estime ou d'autre chose qui vous fait mal et vous préoccupe, appelez le 3921. Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir. Si vous souhaitez juste écouter et intervenir par SMS, vous pouvez le faire en tapant simplement le 739-21 en commençant bien par le mot « nuit ». Vous savez que vos SMS sont précieux quand ils apportent un mot de soutien, une idée, une suggestion, un partage. J'ai le plaisir de retrouver ce soir encore Fabrice Fougerouze à la réalisation. Venez nous rejoindre, installez-vous, car la libre antenne, ça commence maintenant. Et on commence donc cette émission ce soir avec vous, Sarah. Bonsoir.
Bonsoir Sabine, je suis un peu intimidée, c'est la première fois que je passe à la radio.
Oh, ça va bien se passer, je vous fais une petite place à côté de moi dans ce studio et on va pouvoir se parler en toute sincérité.
Je vous remercie.
Je vous écoute.
Et au passage, Hassan et Amandine également pour leur écoute.
Ils sont formidables tous les deux. Hein.
C'est vrai, et bien, j'ai bien aimé votre introduction ce soir, vous parlez d'estime de soi, de confiance en soi et... Je me demande si les soucis relationnels de ma fille, avec ses amitiés notamment, mais aussi à la maison, je me demande si ça ne vient pas d'un manque cruel de confiance en elle. Alors, je vous explique, cette semaine, j'ai eu une conversation avec une maman de l'école. Sa fille est la meilleure amie de ma fille.
Quel âge a votre fille pour qu'on comprenne le contexte?
Elle a 11 ans et elle est en 6e.
D'accord.
Donc, cette meilleure amie depuis des années. Eh bien, je suis un peu inquiète parce que la maman, de fil en aiguille, me parle de plusieurs situations qui semblent montrer qu'il n'y a pas un lien très sain entre les deux et que notamment la petite fille en question serait un peu sous emprise de ma fille. Alors, pour vous donner des éléments... Ma fille est perçue à l'école comme étant quelqu'un de très charismatique, avec un grand besoin d'être admirée, avec un souci important de commander plus ou moins les autres, les copines, décider avec qui tu parles avec celle-ci, tu parles pas avec celle-là, un peu de petits jeux de pouvoir où il y a des remarques blessantes aussi. Qui reviennent régulièrement de la part de ma fille, semble-t-il. Alors, c'est la deuxième maman qui m'alerte sur des faits similaires sur deux ans.
Jusqu'où ça a pu aller, par exemple?
Ça a pu aller, par exemple, ma fille a un jour a humilié une de ses camarades, a pris, entre guillemets, plaisir à aller la surprendre au cabinet de toile de la salle de bain et donc ouvrir la porte et surprendre la fille donc, qui faisait ses besoins et rameuter d'autres personnes pour se moquer d'elle. Donc c'est vraiment très très humiliant. C'est surtout au niveau des remarques blessantes. Alors, je fais peut-être un petit détour pour vous dire aussi comment je vois ma fille. Alors, elle, ma fille, elle, pour elle, elle a un besoin absolu d'être à la première place. Elle a un manque de... Elle souffre de manque d'attention alors que je ne sais pas bien comment... moi, je suis une maman divorcée. C'est vrai qu'on manque de structure de famille dans la région où on habite. Puisque moi-même, je ne suis pas née en France, et donc ma famille n'est pas en France. Mais ma fille, clairement, elle se sent mal aimée. J'ajoute que j'ai un garçon et une fille de 11 ans. Mon garçon n'a pas la même problématique. J'élève mes enfants, je suis divorcée donc, depuis 5 ans. Et ma fille m'accuse souvent de ne pas lui donner suffisamment d'attention, même lorsqu'on aura fait des activités ensemble, nous faisons des jeux ensemble, etc. Mais ça ne lui suffit jamais. C'est un puits sans fond. Elle est en permanence insatisfaite. Alors moi, je lui dis qu'elle n'a peut-être pas toute l'attention dont elle a besoin, mais je lui donne toute l'attention dont je suis capable. Elle voit bien qu'au quotidien, je suis présente, que je l'accompagne, que je la cadre. Et voilà, j'ai plein de petits gestes pour lui montrer qu'elle compte pour moi, y compris quelquefois je fais un petit programme avec chacun de mes enfants tout seul pour leur signifier qu'ils sont vraiment uniques pour moi. Alors ma fille, autrement par exemple à l'école, elle est brillante, donc elle est, comme je vous dis, elle est toujours à la première place, elle supporte très mal l'échec. Oui. Donc par exemple, elle peut avoir un 18, bah, elle est fâchée quoi. Si on joue à la maison un peu jeu de cartes, elle est très frustrée, extrêmement frustrée lorsqu'elle perd.
Oui, tout ça, c'est la même origine en fait. C'est le même résultat de quelque chose de particulier. On va en parler simplement. J'aimerais savoir comment elle se comporte avec son frère.
Bah, évidemment, c'est comme avec moi et comme avec. C'est en général, c'est-à-dire elle essaie d'établir un rapport de domination. Mmh. Alors que ce soit avec son frère ou avec moi, elle joue beaucoup sur l'affectif. Donc par exemple, elle sait très bien sur quel ton parler lorsqu'elle a une demande de quelque chose, lorsqu'elle a un besoin, un objectif très précis. Et lorsqu'elle obtient ce quelque chose, eh bien, elle peut devenir irascible. Si la seconde d'après, par exemple, si elle est contrariée, si elle entend un non, si elle demande quelque chose qui n'est pas possible, elle peut devenir brutale. Elle a des remarques cinglantes qui partent tout seules. Et ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'elle est dans le déni. Alors, elle n'admet pas, même, je vous dis, à part des disputes, lorsqu'on parle calmement et qu'on revient sur les événements, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle n'arrive pas à se remettre en question.
Parce qu'elle est petite encore.
Elle accepte très mal la critique, mais elle est extrêmement intelligente. Et de par des situations, j'ai eu une séparation très difficile, elle a vraiment beaucoup grandi dans sa tête.
Oui,
et
elle comprend
beaucoup de choses.
Oui, elle a grandi intellectuellement, ce qui ne veut pas dire qu'émotionnellement, elle est mature.
Oh, écoutez, je n'arrête pas d'acheter, de prendre, par exemple, de parler des émotions. On fait des tableaux pour coller des émotions. On dialogue chaque soir. Je dialogue longuement avec eux. Je réponds à toutes leurs questions. Elle a une maturité affective aussi, de fait, une compréhension, une capacité de parler d'elle. Mais sur le coup de ces faits là où elle est en tort,
ses comportements.
Elle devient comme si c'était une deuxième personne, alors que par ailleurs, elle peut être adorable.
Comment est-ce que vous réagissez, par exemple, quand on vous relate ce qui s'est passé dans les toilettes avec cette autre petite fille?
Alors, je vais expliquer. Excusez-moi, j'ai juste un enfant. J'arrive, tout va bien. Ton occasion de bain. J'arrive, Thérèse. Je suis désolée. Alors qu'elle dormait... Bon, elle semble se réveiller alors que je suis à l'autre bout de l'appart. Vous me demandiez comment j'ai réagi. Oui. Alors, je lui ai très clairement, très simplement expliqué, calmement, que c'était grave, que on a pas, il y a des interdits et que de fait on n'a pas le droit d'humilier quelqu'un, que j'ai essayé de susciter son empathie en faisant se mettre à la place de l'autre fille, qu'est-ce qu'elle aurait senti. Ce que j'ai compris de cet épisode-là, c'est qu'en fait ma fille se sent très mal aimée, donc en l'occurrence elle cherchait à tirer, je crois qu'elle arrive, je vais devoir interrompre une seconde.
Est-ce qu'on fait une pause peut-être à ce moment-là ? Ce sera plus simple, hein. Sarah ?
Non, elle va juste aller boire de l'eau.
Sinon, si vous voulez, on fait une petite pause musicale. Vous voyez ce qui se passe et je vous récupère dans quelques minutes. C'est plus simple, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite. Sarah, est-ce que vous êtes là ?
Oui, je suis un peu gênée parce que ma fille qui dormait, moi je parle dans une autre pièce, la porte fermée, mais elle s'est réveillée, elle est un peu inquiète. Donc quoi, ouais, je ne sais pas. Bon, si jamais elle m'interrompt une deuxième fois, je pense que je ne peux pas continuer.
On va aller à l'essentiel. Ce que je voulais vous dire, vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure. Vous avez dit « mon divorce s'est mal passé ». Or, quoi qu'il arrive, même quand ça se passe bien, malheureusement, quand les parents divorcent, un enfant se sent non seulement coupable, mais surtout a l'impression d'avoir perdu le contrôle. C'est-à-dire que pour un enfant, les choses normales de la vie, c'est que les parents, papa, maman, ça, mais on est une famille, on ne se quitte pas. Quand le couple éclate, quand les parents se séparent, pour l'enfant, c'est une grosse perte de contrôle, inconsciemment bien sûr. Et votre fille, ce qu'elle est en train de vous montrer, c'est qu'elle a désespérément besoin d'avoir le contrôle de tout. Elle a besoin d'avoir le contrôle de ses notes, vous me disiez, elle est brillante, elle est tout le temps la meilleure. Elle a besoin de garder le contrôle quand elle joue. Il faut qu'elle gagne. Elle a besoin de garder le contrôle sur les autres en les manipulant. Mais tout ça, c'est un appel au secours. Parce qu'elle a...
Comment je peux l'aider ?
Alors, est-ce que vous l'avez amenée voir des thérapeutes ?
Bien sûr. Alors, elle a été en psychothérapie dans un CNP pendant quelques années.
Oui.
Ça n'a pas beaucoup avancé par rapport à ce genre de comportement.
J'entends ça.
Ce dont j'ai peur, je pense à des troubles, d'éventuels troubles de personnalité. Et j'avais besoin, je ne sais pas s'il y a, à votre connaissance, des pédopsychiatres au niveau de la Bretagne, notamment au niveau de Rennes, où je pourrais l'amener parce que le psychologue chez qui voyait ma fille, bah, il n'a rien décelé d'anormal, quoi, si vous voulez. Et moi, ça m'inquiète.
Non, Sarah, je ne connais pas spécialement de pédopsychiatre et mon rôle n'est pas de vous donner des noms de médecins parce que ça, c'est une implication que je n'ai pas à prendre.
Mais quelquefois, il y a des auditeurs qui connaissent et qui donnent des noms, c'est pour ça.
Alors, hors antenne, en tout cas, pas à l'antenne. Peut-être, d'accord, effectivement, d'accord. Si on a des auditeurs qui connaissent un bon pédopsychiatre, dans quelle ville exactement ?
Rennes, par exemple.
À Rennes, d'accord, on vous transmettra les coordonnées, mais au-delà de ça, il faudrait vraiment que vous parliez, quand vous parlez à votre fille, de lui reparler de cette époque du divorce et de bien lui expliquer... Mm-hmm. Que la petite fille qu'elle était, n'y était pour rien et qu'elle n'a pas perdu le contrôle. C'est votre couple, c'est le couple qui a perdu son contrôle, c'est pas elle. Parce qu'inconsciemment, elle est en train de se barricader dans un comportement où elle croit que la seule manière d'avancer dans la vie, c'est de garder désespérément ce contrôle-là. Mais elle s'enferme. Elle s'enferme en humiliant les autres, elle s'enferme en se forçant à être excellente dans tout. À vouloir contrôler tout comme ça, il faut qu'elle comprenne que c'est tout sauf la liberté et c'est tout sauf le bonheur.
Et quand je vous parlais de perte de contrôle sur quoi ?
Sur le fait que son papa est parti, que ses parents se sont séparés. Vous voyez jusqu'où ça va, même inconsciemment. Vous êtes au téléphone, elle arrive, elle a probablement une petite intuition qui est arrivée, elle est venue vous perturber aussi. Il y a quelque chose qui lui échappe, là, elle l'a senti et ça ne lui convient pas.
Donc vous me dites, la rassurer sur le fait qu'elle n'a pas perdu le contrôle.
C'est pas le contrôle de sa vie à elle qui est parti en fumée, c'est votre couple. Et que ce sont des histoires de grands et que vraiment qu'elle comprenne qu'elle a déplacé ce problème dans sa vie à elle alors que c'est pas un problème à elle. Que c'est vous qui avez perdu le contrôle avec votre mari et que ça vous regarde, ce sont des histoires d'adultes, de grands. Et si elle est effectivement brillante, même si elle n'a que 11 ans, elle peut comprendre que ce n'est pas en cherchant désespérément à se contrôler ou à contrôler les autres qu'elle va se garantir le bonheur, pas du tout.
Oui, je comprends.
Le contrôle est un manque de souplesse, un manque de capacité d'adaptation.
C'est très bien, le contrôle est un manque de capacité d'adaptation.
Vous allez pouvoir lui faire un petit exercice. Alors, j'en ai déjà parlé à la radio, je ne sais pas si on peut imaginer ça, mais vous allez lui demander, elle est droitière ou gauchère, votre fille ?
droitière.
Alors, vous allez lui demander simplement de tendre la main droite, la paume vers le plafond. Vous allez lui mettre un stylo bille à l'intérieur et vous allez lui demander de serrer très très fort. Très 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 fort. Au bout d'un moment, ça fait mal. Et sans bouger, vous allez lui demander tout doucement de réécarter ses doigts. Et vous allez lui dire, qu'est-ce que tu constates ? Elle va vous dire, bah, je ne sais pas. Et vous enlèverez le stylo et vous lui direz, bah, simplement, tu n'as rien perdu. Quand on lâche le contrôle excessif, on ne perd rien, on arrête de se faire mal.
Donc, elle serre très fort et ensuite, si elle le relâche, constater simplement qu'elle n'a pas perdu
le stylo. Voilà, c'est un petit jeu, mais ça marque l'inconscient, ça marque l'esprit. Ça. Lui montrer lui montrer que quand on, voilà, quand on contrôle très très fort, ça fait juste mal. Mais que quand on lâche, on ne perd rien, bien au contraire. On apprend à s'adapter à ce que la vie propose. Mais tout ça, c'est très inconscient. Elle a enregistré ce problème de manque de contrôle toute petite et c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour continuer.
Est-ce que vous croyez, bien sûr, est-ce que vous croyez qu'une séance d'hypnose ericksonienne pourrait l'aider aussi dans la partie inconsciente ?
Bien évidemment, mais ce n'est pas une séance, c'est quand même, c'est une thérapie brève, mais pas instantanée, l'hypnose. Je pense qu'un travail comme ça, sur elle, ça serait peut-être entre 3 et 5 séances. 3, ça serait déjà, ça serait vraiment bien.
Et que je pourrais l'amener, même sans qu'elle me le demande, en lui expliquant, que je peux lui proposer ça. Vous croyez que c'est une bonne idée à son âge, je ne sais pas.
J'ai pas compris votre question. Vous voulez l'amener sans lui demander, alors, mais en lui expliquant, c'est-à-dire.
Je voudrais lui expliquer. Oui. Mais est-ce que vous croyez que c'est bien que je lui propose ça ?
Bien sûr, mais ne la forcez pas. Expliquez-lui, oui, expliquez-lui que l'hypnose fonctionne sur la partie inconsciente et justement sur cette partie d'elle qui a enregistré qu'il fallait absolument contrôler tout pour se protéger et qu'elle est elle est en surcontrôle. Et que ce surcontrôle ne déclenche que des choses difficiles et douloureuses et pas du tout des choses positives dans sa vie. Et ça n'est que le début. Si à 11 ans, elle déclenche déjà autant de choses négatives, c'est qu'elle n'est pas sur le bon chemin.
Oui, alors j'ai bien noté ces petites pistes, je vous remercie. Il y a une dernière remarque. Il y a un comportement qui revient souvent à la maison. Par exemple, lorsqu'elle est insolente, et elle me répond très mal, et bon, du coup, je pars ou je la mets dans la chambre. Et lorsqu'on revient sur le sujet, elle n'admet jamais qu'elle m'a dit quelque chose de mal. Donc elle retourne en me demandant, en m'épuisant, en me disant, mais dis-moi ce que j'ai dit de mal. Dis-moi pour me faire parler. Et puis je parle, je dis ce qu'elle m'a dit. Et elle contredit tout, et avec un tel pouvoir, capacité d'argumentation, jusqu'à me laisser confuse parfois. Et elle s'en sort
pas. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle reprend le contrôle. Elle ne vous laisse pas vous exprimer, elle ne vous laisse pas avoir raison. Même si objectivement, vous ne faites que relater la réalité. Au lieu de l'accepter et d'entrer dans une ouverture, elle va reprendre le contrôle de la situation en vous disant « non, tu as tort
». Écoutez, je sais très clair ce que vous m'avez dit. Vous m'avez donné quelques pistes. Donc, une par la parole, en revenant sur le fait du genre, sur le fait qu'elle n'a pas perdu le contrôle et que c'est une histoire d'adulte qui nous regarde. Une deuxième piste, un jeu avec le stylo. Et une troisième piste, éventuellement, lui proposer qu'est-ce que c'est un hypnose.
Et j'en ai peut-être une quatrième, si vous le souhaitez. Si vous aimez lire, je peux vous conseiller le très bon livre de Rizzonino.
J'adore lire.
Le livre de Rizzonino qui s'appelle « Parents d'adolescents, une crise peut en cacher une autre ».
Très bien, je suis en train de noter.
Rizzo, R-I-Z-O, Nino, N-I-N-O. « Parents d'adolescents, une crise peut en cacher une autre ». Je pense que vous y trouverez de bons conseils aussi dans ce livre-là.
Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est très clair. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment une très bonne continuation et à toute votre équipe.
Merci de votre confiance et de votre appel, Sarah.
Merci.
Au revoir.
Merci, Sabine. Au revoir.
Marche mieux que le micro ouvert, voilà. Et c'est Catherine que j'accueille maintenant sur cette libre antenne. Bonsoir à vous, Catherine.
Bonsoir, Sabine.
Il est taquin, mon réalisateur.
Bah oui, ça fait du bien en début d'année.
Alors, oui, bienvenue à vous, Catherine. De quoi voulez-vous me parler ?
Merci. Oui, voilà, j'ai fait de l'hypnose pour arrêter de fumer. Et je me réfugie dans la nourriture. Et en même temps, donc, la dame m'a proposé pour le poids, mais j'arrête pas de manger, ça devient une obsession. Alors que jusqu'à là, je ne mangeais pas spécialement beaucoup, quoi. Je ne sais plus quoi faire.
Attendez, racontez-moi ça plus précisément. Vous avez fait une séance d'hypnose pour arrêter de fumer.
Oui.
Est-ce que ça a fonctionné pour le tabac?
Oui, ça a fonctionné, très bien.
Ah d'accord, donc vous avez arrêté.
Et le problème, c'est que je me suis rabattue sur la nourriture.
Et voilà, c'est un peu ce que je craignais.
Et ça, c'est pas bon, quoi.
Et non, c'est pas le but. Vous avez remplacé une addiction par une autre.
Voilà, oui.
Est-ce que vous pouvez me dire en deux mots comment s'est déroulée la séance d'hypnose?
Très bien. La dame m'a proposé de lâcher prise, de me visualiser sans cigarette, de lâcher les sacs qui m'encombraient de choses que j'avais accumulées pendant des années, des problèmes, voilà quoi. Et elle m'a dit, vous allez vivre maintenant sans fumer, ça va être bien, et vous pourrez, vous n'aurez plus envie de fumer quand vous allez sortir d'ici, quoi.
Oui.
Et effectivement, c'est ce qui s'est passé.
Et ouais, le problème, c'est qu'elle a enlevé quelque chose sans le remplacer par autre chose, et que la nature a horreur du vide.
Oui.
J'ai déjà expliqué ça sur cette antenne, mais tout le monde n'était pas forcément...
Non, je n'étais pas d'accord.
Ben, je vais vous le réexpliquer si vous voulez.
Oui, d'accord.
Je vais repartir des choses un petit peu plus basiques.
Oui.
Nous avons tous 5 canaux de communication.
Oui.
Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Ce sont les 5 sens avec lesquels nous percevons les informations, nous les restituons, d'accord?
Oui.
Pour entrer en état d'hypnose, puisque vous l'avez vécu, on dit qu'on sature 3 de ces 5 sens. C'est-à-dire que si on sature la vue, en fixant un point par exemple, l'audition, l'audition en se concentrant sur une musique ou sur un son, et le kinesthésique en se concentrant sur la respiration, le mouvement du ventre, ou le toucher du siège sur lequel vous êtes assise, on entre en hypnose quand on occupe 3 de ces canaux, d'accord? La cigarette, elle vous occupe en permanence les 5. La cigarette, elle occupe la vue, avec le packaging ou la cigarette elle-même. Elle occupe le bruit, vous savez, le petit bruit de l'allumette ou du briquet qui vous accompagne des années et qui est un ancrage inconscient.
Oui.
Le kinesthésique, c'est-à-dire le toucher, bien sûr, puisque tous les fumeurs ont quelque chose dans la main. L'olfactif et le gustatif. Ça veut dire que vos 5 sens sont pris et que la cigarette vous maintient en hypnose permanente avec ces 5 sens-là. Alors, on peut les retirer. Effectivement, il y a plusieurs techniques. On peut, en hypnose, vous suggérer pendant une heure que la cigarette va sentir le caca, que ça va puer, que vous aurez envie de vomir. On peut associer le dégoût. Donc ça, c'est une technique.
Oui.
Pourquoi pas? On peut aussi associer la peur. Vous faire visualiser ce que c'est que le cancer, les poumons pourris, les choses comme ça.
Oui.
On peut vous suggérer que vous arrêterez. Sauf qu'en faisant tout ça, ça peut marcher. Mais ça ne tient pas. Ou alors ça ne dure pas, ou alors malheureusement, vous allez compenser. Il y a des gens qui compensent en devenant accro à la nicorette. Et qui finalement se retrouvent avec bien plus de nicotine dans le sang que quand ils fumaient.
Ah, d'accord.
D'autres deviennent accro à la bouffe. Parce que je dis volontairement bouffe, parce qu'on ne mange pas en bouffe dans ces cas-là.
Non, c'est ça, j'ai honte de moi d'ailleurs.
Et donc le problème, c'est qu'il faut absolument, quand on fait des séances sur le tabac, remplacer cette addiction par une autre addiction saine et bonne. C'est-à-dire qu'elle aurait dû, pendant la séance, vous suggérer de choisir quelque chose que vous mettez dans votre bouche mais qui vous fait du bien, comme des fruits secs qui sont bourrés d'oméga 3, du thé, du café, des bonbons sans sucre, des choses qui peuvent compenser ce besoin d'avoir quelque chose dans la bouche, parce que le fumeur a besoin, il a créé ce besoin-là. Mais si on vous enlève ça et qu'on vous remplace par rien, ben le problème, c'est qu'il arrive ce qu'il arrive en ce moment avec vous, quoi.
Ah, d'accord, ok. Puis moi, j'ai tout supprimé. J'ai supprimé le thé, tous les excitants, j'ai supprimé, quoi.
Eh oui, mais on peut pas supprimer en laissant du vide. si on laisse le vide comme ça, ça marche pas.
Bah oui, voilà. Alors, je lui ai retéléphoné. J'ai rendez-vous le 28 janvier pour refaire une séance.
Eh bien, dites-tu ça.
Sur la nourriture, qu'elle m'a dit. Je ne sais pas si je... Si ça vaut le coup d'y aller ou je ne sais plus là.
Si, je pense qu'il faut aller parler avec elle et lui expliquer ce qui s'est passé, mais lui expliquer qu'on ne peut pas laisser enlever quelque chose sans le remplacer par quelque chose de sain.
D'accord, ok.
Après, pour la nourriture, je ne sais pas comment elle va travailler avec vous. C'est un autre chemin encore, c'est différent.
Oui, voilà, ouais.
Mais la cigarette, il faut vraiment toujours se dire qu'elle occupe nos cinq canaux, nos cinq sens.
Oui.
Et qu'il faut occuper ces cinq sens avec autre chose, en plus.
D'accord.
On ne peut pas les laisser vides, ces cinq sens-là.
Bah non, non, c'est clair.
Mais voilà. Voilà si...
Puis je me sens coupable de manger comme ça, pas, parce que j'ai pas spécialement faim.
Bon, déjà, concentrez-vous sur le positif, Catherine. Sentez-vous fière d'avoir réussi à arrêter de fumer.
Ah oui, bah oui, 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 ça c'est clair, oui.
C'est déjà drôlement bien.
Ah oui.
Mais il va falloir que ça dure et que vous ne compensiez plus par la nourriture. Et donc, c'est un travail que vous allez continuer à faire avec elle. Mais dites-lui franchement tout ça. Dites-lui ce qui s'est passé, qu'elle comprenne qu'il faut peut-être travailler un peu différemment avec vous.
D'accord. OK.
D'accord.
D'accord. Et vous pensez que ça peut marcher alors?
Ah bah, je sais que ça marche. Quand c'est bien fait, ça marche. Bien sûr, ça marche.
D'accord. OK. Là, je vais continuer alors.
D'accord.
Ben, je vous remercie beaucoup, Sabine. Bonne soirée. Merci à vous et à toute votre équipe.
Merci de votre appel, Catherine.
Bonne nuit.
Au revoir.
Au revoir.
Et vous êtes sur la libre antenne. Je vous rappelle qu'il y a un seul numéro de téléphone à composer. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est le 3921. Amandine et Hassan sont à votre disposition. Ils attendent vos appels. Et c'est François que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous, François.
Bonsoir. Je vous remercie de me donner la parole et de m'écouter. J'écoute très souvent vos émissions qui sont toujours constructives et qui aide sur tous les gens. Aujourd'hui, je suis assez ému de vous reparler.
Dites-moi ce qui vous arrive.
Le 4 septembre, j'étais victime d'un accident de travail chez mon employeur.
Mmh.
8 ans passés chez lui.
Vous faisiez quoi comme métier?
J'étais cuisinier.
Oui.
De très bons rapports, pas de bruit. Je pense être un homme qui a été reconnu par lui comme quelqu'un de ponctuel, rigoureux dans le travail, toujours à l'heure, professionnel. Aujourd'hui, j'ai du mal à parler, je m'excuse, mais la blessure est immense, voilà. La blessure est immense. Je me blesse, malheureusement. Donc, malléole touchée, grave entorse, ligament touché, béquille, attelle un mois, IRM, en tout ce qui s'ensuit.
Mmh.
Ensuite, rééducation qui se passe mal puisqu'il y a une algodystrophie constatée au niveau du pied. Ensuite, à chaque fois qu'on a appelé l'employeur, mon employeur, ce ne sont que des paroles blessantes, comme quoi je l'aurais fait exprès, comme quoi, enfin, voilà, qui cherchent à toucher la personne. Pas de tolérance, pas de compréhension de la part de cette personne qui n'a que des mots.
Pourquoi est-ce que vous me dites que vous l'avez appelé? Normalement, c'est pas en direct que ça se gère, ça.
Oui, mais je devais l'informer et tout. Donc, on a toujours envoyé les papiers en bonne et due forme. J'ai même eu, madame, un contrôle le 24 octobre par un médecin. J'ai même eu un contrôle de sa part, hein, par un médecin. Il m'a fait envoyer un contrôle à 9h30 le matin pour voir si j'étais bien blessé. J'ai été contrôlé. Je lui ai prouvé toujours ma bonne foi parce que je pense que je suis reconnu par où j'étais passé comme un homme honnête. Voilà, quand je fais des fautes, je les reconnais. Le 4 novembre, il me renvoyait un courrier recommandé par lequel il n'avait pas eu de reprise de travail que je devais reprendre le 1er novembre alors que le 1er novembre, c'est férié. J'ai eu encore un courrier après, 15 jours après, un autre courrier par lequel je devais immédiatement l'informer pour qu'il s'organise, parce qu'il devait me remplacer, vu que j'avais des prolongations de travail. Et aujourd'hui, donc c'est la médecine du travail qui s'en est occupée, qui a constaté qu'au niveau de la malléole et la cheville, je n'étais plus apte à reprendre donc mon activité dans l'entreprise, vu le contexte et la tension qui régnait et la façon dont ce patron m'a traité. Je me sens sali, je me sens mal, je me sens pas bien. Et les conséquences de ça sont aujourd'hui que j'ai fait une dépression, donc cachet pour dormir, antidépresseur, centre médico-psychologique, et la psychiatre maintenant et tout. Voilà, et aujourd'hui, le docteur m'a dit encore la semaine dernière, ce monsieur vous a démoli. Vous êtes démoli, je pense que je suis quelqu'un d'honnête, de droit et tout. Aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis, quoi.
Alors François, respirez et racontez-moi un petit peu le début de l'histoire. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette entreprise-là? Il y a combien de temps et comment est-ce que vous l'avez connu, ce monsieur?
Je suis arrivé dans cette entreprise il y a 8 ans.
Oui. Comment?
J'ai vu cette annonce, c'était sur le Pôle emploi.
Oui.
Et j'arrivais de la région parisienne. Et donc j'avais déménagé de la région parisienne pour arriver dans l'ouest de la France.
Et à ce moment-là, avec lui, le contact était comment au départ?
Mais ça allait, hein. Mais bon, c'était une personne, vous savez, c'est une personne qui mélange tout, qui ne sait pas dialoguer avec les gens constructivement, sans s'énerver, sans. C'est quelqu'un qui n'a pas de tolérance et pas de passion surtout. Voilà. Vous ne pouvez pas parler, quand vous parlez avec lui, c'est pas possible. Moi, quand parfois il y avait des heures, entre guillemets, pour des choses bénignes, il partait dans tous les sens, mais c'est. Aussi bien avec moi, ça pouvait aussi bien se passer avec moi qu'avec sa compagne ou qu'avec des clients même.
Oui.
Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment soupolé, qui ne se maîtrise pas, qui ne sait pas parler. Comment pouvez-vous au téléphone, à chaque fois que nous, enfin moi et ma compagne, nous l'avons informé par téléphone comme quoi j'étais prolongé en accident, vous dire. Il y a eu des mots, quoi, des mots forts qu'il nous a dit, que je faisais perdurer les choses, alors que j'avais les certificats médicaux de mon médecin traitant, j'avais les certificats J'avais des certificats par lesquels j'étais soigné pour mon pied, pour ma rééducation et tout.
Oui, vous êtes complètement dans votre droit et vous êtes en règle, il n'y a aucun problème là-dessus.
Oui, bien sûr, mais j'ai toujours fait le nécessaire, j'ai toujours été correct. Aujourd'hui, voilà, j'étais lisse, la médecine du travail. Moi, je voulais pas retourner dans ce contexte-là, du tout. J'ai pas voulu retourner dans cette entreprise par rapport, j'ai pas compris la façon dont il m'a pris parce que moi, j'ai rien commis de grave quelque part. Et aujourd'hui, j'en suis réduit que je suis obligé de voir un psychologue, un psychiatre, Il m'a même convoqué là aujourd'hui, enfin, depuis le 5 janvier, j'ai reçu un courrier recommandé comme quoi je dois venir chercher mes papiers, mon solde tout compte, parce que j'ai été licencié par la médecine du travail. La médecine du travail, vu l'état de ma cheville et le contexte qu'il y a entre nous, n'a pas souhaité que je reprenne dans cette entreprise parce qu'elle pensait que j'allais faire. Une dépression, et la dépression, elle est venue après. Là, aujourd'hui, je prends des cachets pour dormir. Je dors pas avant 2-3 heures du matin. Je dors l'après-midi. Je prends des antidépresseurs. Il me convoque. Il m'a envoyé un courrier pour me convoquer pour venir chercher mon solde tout compte et mes papiers. J'en suis incapable d'y aller parce que je sais comment ça va se passer. Voilà.
Est-ce que vous pouvez y aller accompagné par quelqu'un?
Mais oui, mais de toute façon, je peux y aller avec quelqu'un, mais il va y avoir les mots, les paroles. Vous savez, je connais très bien cette personne parce que j'étais 8 ans chez lui. Et quand il s'énerve contre quelqu'un, ça part de, il y a aucune maîtrise de la personne. Les mots fusent, les paroles fusent. Trois fois, il m'a fait pleurer dans son entreprise. Il a fait pleurer sa compagne. Je l'ai constaté quand moi, j'y étais. Mmh. Tout le monde y a droit. Et aujourd'hui, je me sens psychologiquement, moralement, je suis très affecté parce que voilà, je pleure beaucoup tout seul dans mon coin. Je suis suivi psychologiquement et puis voir un psychiatre. Et jamais, jamais, j'aurais pensé ça. D'être arrivé comme ça.
Et pourtant François, quand on vous écoute, on comprend bien que le problème, c'est pas vous, c'est lui, vous le savez. C'est lui qui a un problème. Donc pourquoi est-ce que vous prenez ça sur vous? Toutes ces saloperies qui vous dit.
Ah, parce que j'ai cherché quelqu'un qui me cherche à faire. Vous savez, c'est une personne qui. Quand j'ai décrit cette personne-là au psychologue et au psychiatre, ils m'ont dit. Alors, ce sont leurs mots, que c'était un pervers narcissique.
Oui, j'ai bien compris, mais il ne peut être comme ça que si vous le laissez faire. Aujourd'hui, vous ne dépendez plus de lui, vous ne travaillez plus pour lui, vous ne voulez plus travailler pour lui, on est d'accord.
Ah non, mais ça, j'en suis incapable de retourner dans une structure où on vous envoie un médecin pour vous faire contrôler alors que vous êtes en accident de travail.
Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il n'a plus aucun pouvoir sur vous.
Bien sûr, mais bon, moi, je dois aller chercher des papiers, je dois aller... au-delà de ça, c'est psychologiquement et moralement, je suis affecté. Je prends des médicaments, alors chose que je n'ai jamais prise de ma vie. Je suis suivi. Les journées, sont très difficiles pour moi parce que c'est toujours la même chose. Je suis affecté, vraiment affecté, hein, vraiment, parce que je suis quelqu'un de sensible. Et j'ai toujours essayé, dans l'entreprise, de donner le maximum de moi-même dans le travail. J'ai toujours essayé de partager les choses et tout. Mais aujourd'hui, j'ai dit à la psychologue, j'ai dit à la médecine du travail que je ne voulais pas l'affronter, je ne voulais plus le voir. Voilà. Et aujourd'hui, je ne sais plus trop où j'en suis, quoi, parce que bon, je tourne en rond, j'ai l'impression d'être en labyrinthe. Voilà.
Est-ce qu'il a une responsabilité dans l'accident qui est arrivé ?
Oui, il a une responsabilité parce que je me suis pris les pieds dans une palette en bois en bas des marches et cette palette n'a pas lieu d'être là.
Voilà,
ce n'est pas conforme par rapport à la législation du travail.
Ça peut expliquer, ça peut expliquer son agressivité et sa peur aussi. S'il a peur d'être mis en cause, ça ne justifie pas, ça explique. C'est ça que je voulais vous dire. Son comportement est excessif et il doit avoir peur de quelque chose.
Oui, bien sûr, mais parce que c'est pas conforme les choses. Donc déjà, il y avait d'autres choses. Il y a d'autres choses qui n'étaient pas conformes que moi je lui avais signé verbalement. Je lui avais dit, par exemple, qu'il y avait des infrastructures à l'intérieur où je travaillais qui n'étaient pas conformes. Il me disait oui, je vais le faire, mais ça n'a jamais été fait. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, le sentiment, comme j'ai expliqué au psychologue et au psychiatre et à mon médecin traitant, qu'il veut me faire porter entre guillemets le chapeau, qu'il veut me culpabiliser et que voilà, que parce que là aujourd'hui, malheureusement, il y a une prime de licenciement, il y a tout ça qui est concerné. Mais moi c'est pas ça que je cherche. Moi je suis affecté psychologiquement, je suis affecté moralement. Je dors pas, les nuits sont courtes,
François, prenez le temps de respirer, s'il vous plaît. On fait une petite pause, le temps des infos, et je vous récupère juste après, d'accord ?
Merci.
D'accord ? Prenez un verre d'eau, respirez, et on reprend cette conversation dans quelques minutes.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez donc bien sûr continuer à nous appeler en faisant le 3921. Amandine et Hassan sont là, ils sont à votre disposition au standard d'Europe 1. Si vous souhaitez participer à notre émission par SMS, vous faites le 739-21 en commençant par le mot nuit. Vous savez que vos SMS sont importants et dans un instant nous allons voir ça avec François qui en a reçu énormément pendant la pause des infos. À ce propos, je vous rappelle quelque chose d'important. Si vous voulez entrer en contact ou en relation avec quelqu'un qui passe à l'antenne et qui vous touche, faites-le s'il vous plaît tout de suite par SMS. Nous ne gardons pas les coordonnées des intervenants. Si vous réagissez dans les jours qui suivent, c'est trop tard, nous ne pouvons plus vous mettre en contact. 3921 donc pour le numéro de téléphone, par SMS 739-21, en commençant bien par le mot nuit.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
François, vous êtes toujours là ?
Oui, je vous écoute.
Je peux vous dire qu'il y a une vague de solidarité au standard depuis que vous avez témoigné. On a eu plein de messages pour vous. Alors attendez, je voulais prendre un par un. Alors, Gisèle qui vous dit « Si François va au prud'homme, il gagnera. C'est impossible qu'il en soit autrement. » Est-ce que vous avez envisagé ça ?
Certains me disent... Certains me parlent de... Le psychiatre m'a parlé de prendre carrément, vu le dossier, de prendre un avocat.
Mmh.
Voilà. Donc, mon médecin traitant m'a fait un papier par lequel il m'interdisait d'aller chercher des papiers ou de rentrer en relation. Le psychologue aussi. Le CMAIC, c'est-à-dire la médecine du travail, m'a fait part du fait que moi, j'aurais fait part que je ne voulais plus voir cette personne du tout et ni rentrer en contact. Et donc, voilà quoi. Moi, une personne qui au bout de 8 ans, vous adresse un contrôle d'un médecin, vous envoie des recommandés alors que vous êtes en accident de travail, vous renvoie encore des recommandés 15 jours après, par lequel il va être informé immédiatement. Vous avez normalement la loi. Enfin, dit, vous avez 48 heures pour envoyer les papiers. J'ai toujours fait les choses en bonne et due forme, dans le respect des règles et tout. Et aujourd'hui, ben, j'en suis arrivé que, à la suite de tout ça, j'en ai fait une dépression. Voilà, donc
J'ai
avec
bien
tout ce que
compris,
je vous
François,
ai.
mais essayez d'écouter aussi ce que les gens vous disent. Et je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous comptez donner suite et porter plainte? J'ai pas vraiment compris votre réponse. Est-ce que vous
Porter
comptez
plainte.
aller au prud'homme? Est-ce que
Ah
vous avez
oui,
envie de vous battre contre lui?
oui, bien sûr.
D'accord.
On me dit même de prendre un avocat. Le psychiatre m'a conseillé, m'a dit, monsieur, vu le dossier, vous prenez un avocat, vous êtes gagnant,
Ben
monsieur.
voilà.
Vu le dossier.
Alors,
Voilà.
je vais vous lire d'autres messages qui sont arrivés pour vous et il y en a un qui devrait vous intéresser particulièrement. C'est quelqu'un qui nous dit, je suis employeur dans le domaine de la restauration, je ne comprends pas ce qui motive votre employeur et vous pouvez me joindre pour m'en parler si vous le souhaitez. Et ce monsieur laisse un numéro de téléphone. Donc, si vous le
Ouais,
souhaitez
ben.
hors antenne tout à l'heure, Amandine vous mettra en contact avec lui. Il pourrait être probablement d'un bon conseil aussi.
D'accord,
D'accord?
ben je le remercie d'avance et je vous remercie d'avance
Alors,
vraiment parce
ensuite,
que.
Gisèle qui vous dit aussi, si François va au prud'homme, il gagnera. C'est impossible qu'il en soit autrement. Katonoma qui nous dit une seule solution, l'inspection du travail. Axel qui dit n'y allez pas, passez par les prud'hommes pour faire les documents et rassurez-vous, ils ont l'habitude de ça. On vous conseille aussi de vous faire accompagner par un huissier si vous n'avez pas envie d'y aller tout seul.
Ouais, j'y ai pensé aussi. J'y ai pensé.
Ça me paraît aussi
J'y
une bonne idée. C'est pas tout, je vous dis, j'ai du mal à aller. Tout arrive sur l'écran en même temps. Attendez, je
Je
fais.
remercie toutes les personnes de leur
Oui.
soutien dans ce moment difficile que je traverse parce que je pensais pas tomber aussi bas comme ça. Voilà, j'ai toujours. Merci à tous. Vraiment, merci.
Alors, il y a Marion qui dit cette personne devrait contacter le médecin de la sécurité sociale. Dans mon cas, dit-elle, il m'a protégée en m'interdisant le retour au travail et en me mettant en invalidité. Il devrait aussi s'attaquer au prud'homme. Bon, ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Ça, c'était
Oui.
Marion. Alors ensuite, oulala, pauvre François, qu'il reprenne courage. La médecine du travail l'a certainement déclaré inapte à cette activité. François est dans son droit. Une assistante sociale pourrait peut-être y aller à sa place. François est trop blessé.
C'est vrai, j'ai perdu estime, confiance en moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il faut que je me reconstruise. Mais comment? 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 Voilà. Comment se reconstruire?
Alors on va en parler. Pour l'instant, je continue à faire le tri dans tous les SMS qui arrivent pour vous. N'y allez pas, François, dit Anna. N'allez pas chercher les papiers, vous n'êtes pas obligé. Ils vous les enverront par la poste en recommandé, je l'ai vécu moi-même. Angélique qui dit, je suis en arrêt maladie depuis un an pour le même motif. Faites le maximum pour vous changer les idées. Michel qui vous dit, il faut prendre un rendez-vous pour une consultation gratuite avec un avocat. Elle vous laisse aussi ses coordonnées. Et Georges qui vous dit, il faut qu'il porte plainte pour préjudice moral et atteinte à la vie privée, courage. Et c'est pas tout, on a Laetitia. Est-ce que Laetitia est en ligne, Amandine? Oui, alors on a Laetitia qui a vécu une situation similaire et qui nous a appelé pour faire part de son expérience. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Merci de votre appel, alors racontez-nous un petit peu.
Alors déjà, François, faut garder vraiment espoir et ne rien lâcher, et surtout, surtout, de garder confiance en vous. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui cherchent à prendre le dessus sur nous et qui peuvent nous détruire. Alors que pour autant, on n'est pas des mauvaises personnes. Moi, j'ai travaillé dans un hôtel pendant 7 ans avec des patrons qui n'étaient pas aussi, entre guillemets, horribles que le patron de François. Mais voilà, c'était un patron qui écoutait pas ce qu'on voulait lui dire, qui était très centré sur lui-même et qui du coup par son comportement faisait quand même beaucoup de mal dans sa façon de nous parler, de nous rabaisser. Et au bout voilà de 7 ans où une énième fois il m'a prise alors pour rester poli pour une vraie imbécile.
Ouais, on a compris, une imbécile voilà. Avec un C.
Ah ouais, bah ouais, c'est ça, mais en très gros C, hein. voilà, on avait un hôtel qui était fermé tout le temps pendant une certaine période de l'année. Et à la place de fermer 4 semaines, il en a fermé 5. Et cette 5e semaine, nous, on y était pour rien, c'était pour des travaux. Il me l'a passé en congé sans solde. Donc, quand j'ai été le voir et que je lui ai dit, écoutez, là, ça va pas, je peux pas perdre autant. Une semaine, c'est énorme. En fait, il m'a hurlé littéralement dessus. Et là, je me suis dit, faut que ça s'arrête. Donc, on a fait jouer les relations qu'on avait autour de nous parce que mon mari est aussi en cuisine et j'ai changé. J'ai changé d'établissement. Et là, cette fois-ci, maintenant, je suis avec des super patrons. Enfin, voilà, c'est qui me redonne confiance en moi et voilà, qui me mettent en avant et ça fait un bien fou. Voilà, tout simplement.
Ah ouais, c'est sûr, je vous comprends. Je vous remercie de votre témoignage. Mais moi, c'est une personne, cet employeur, c'est une personne qui ne se remet jamais en question, qui ne sait pas dire
non.
Pardon, qui ne sait pas s'excuser.
Non.
Voilà. Voilà, c'est ça aussi, je vois le problème.
Je comprends pas. Parce qu'ils étaient aussi un peu comme ça. Pas autant poussés, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se remettre en question. Je suis partie proprement parce que je voulais pas que ça fasse de vagues et je voulais quand même rester en contact quelque chose de propre. Mais voilà, j'ai quand même voulu partir et ça faisait déjà quelques années que j'allais au travail à reculons, que je rentrais chez moi, que j'étais pas bien. Voilà, et il y a tout qui s'envenime autour de ça, en fait, parce que quand on n'est pas bien au travail, sachant que c'est quand même une grosse partie du temps dans lequel on passe de nos vies, surtout en étant en hôtellerie-restauration, c'est quand même des horaires assez importants, si on n'est pas bien dans cette zone de travail-là, bah on se détruit petit à petit. Même si on est très bien entouré, parce que personnellement, voilà, j'ai beaucoup d'amour autour de moi, j'ai un mari formidable, j'ai des parents, j'ai une famille autour de moi et des amis où vraiment j'ai rien à redire. Mais quand on n'est pas bien au fond de soi, les autres ont beau faire tout ce qu'ils veulent, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Et on tombe dans cette dépression auquel on n'arrive pas à se relever. Et le fait voilà, d'avoir entre-temps du coup changé de profession, j'ai complètement changé du tout au tout. J'ai changé de patron. Et là, j'ai des patrons qui sont très, très humains et qui comprennent toutes les situations et qui sont très ouverts à la discussion et au rapport humain. Et ben, c'est quelque chose qui change tout. Et en fait, l'idée maintenant, avec le recul, parce que ça fait déjà quelques mois, pas tout à fait un an, ben, je me dis, mais j'ai perdu tellement de temps à me morfondre, à me remettre en question, alors que finalement, ben, ça venait pas de moi. Ben, y a un moment où ça fait un bien énorme.
Et oui, c'est ça, bien sûr. Mais oui, Laetitia, c'est ce que je voulais vous dire, François. La manière dont ce monsieur se comporte, cette personne se comporte avec vous, ça ne dit rien sur vous, ça en dit long sur lui.
Ah bah oui, c'est sûr.
Ça n'enlève rien à votre valeur, à vous et à vos capacités. Ça en dit très long sur lui, sur sa lâcheté, sur ses blessures, sur ses peurs,
c'est
sur tout ça.
C'est exactement ça, parce que enfin, moi je sais que mon ancien patron, que je recroise de temps à autre, et qui est ravi pour le coup de me recroiser, qui voilà, c'est plus entre guillemets le même homme, puisque je ne suis plus son employé, il n'y a plus ce même rapport. Je pense que c'est quelqu'un au fond de lui qui n'est pas bien, qui n'est pas serein. Et du coup, il déverse ça sur les autres,
bien sûr.
Ses employés, et c'est pas quelque chose de sain.
Mais donc ça ne vous appartient pas, François. Et c'est évident que si on est bien dans sa tête et dans sa vie, on ne se comporte pas comme ça avec les autres.
Ah, mais c'est
tous les gens qui sont dans l'humiliation, dans l'agressivité, c'est un signe de détresse. C'est un signe de mal-être. Donc ça ne vous appartient pas, François. C'est lui qui déraille, c'est pas vous.
Il faut réussir à regarder un peu du haut de sa fenêtre, à se dire, à se détacher.
Je cherche à comprendre quelque chose. C'est simple. cette personne m'a toujours décrit que j'étais quelqu'un d'honnête, de professionnel, de bien. Mais ça, c'est les autres qui jugent, c'est les autres qui me voient. Okay. Moi, je ne me juge pas, je suis tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts. Je suis comme je suis. Je pense que je suis professionnel dans le travail, je suis rigoureux, je suis méticuleux, je fais attention, je suis ponctuel. Bon, des erreurs, on est tous des humains avant tout, on en fait. Ça. Voilà.
Hein. Vous aimez ce que vous faites?
Oui, j'aime ce que je fais.
Mais alors, lâchez
j'aime
rien.
J'aime ce que je fais.
Gardez confiance en vous.
Mon travail, je l'adore. Mon travail, j'aime mon travail.
L'hôtellerie-restauration, on a la chance dans cette profession de trouver du travail partout. C'est une branche où voilà, des restaurants, il y en a partout. Il n'y a pas un endroit.
Je suis plus traiteur que... Enfin, je suis cuisinier-traiteur, je suis charcutier-traiteur, exactement. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est cette personne-là me décriait comme je viens de vous le dire. Et dès que j'ai eu mon accident, quand j'ai eu mon accident, voilà, ça a été la dérive, ça a été l'agressivité.
Oui, mais François, c'est ce qu'on vous dit, ça ne vous appartient pas, c'est lui qui a déversé ça sur vous, mais c'est pas à vous, ça.
Il faut vous souvenir de tout ce qu'il vous a dit avant, en fait, de toutes les qualités qu'il vous a mises en avant avant, finalement. Et garder ça en tête et se dire que là, il réagit parce que bah, peut-être qu'il perd un bon élément et que ça, bah, ça l'ennuie parce que de retrouver des personnes en qui on peut avoir confiance, qui travaillent bien, bah, c'est compliqué en restauration. Et du coup, là, voilà, il est un peu mis au pied du mur. Il réagit comment? Bah, il est acculé, donc il aboie, quoi.
Exactement. On a un message aussi qui nous dit « L'employeur est dans la peur, il essaie d'intimider François alors qu'il sait que c'est perdu d'avance. »
Bien sûr.
« Le pervers narcissique perd une proie et ça le met hors de lui. » Vous voyez ?
Même ma compagne qui lui a... Moi, je ne voulais plus l'appeler hein, quand j'étais en arrêt, en accident prolongé. Je ne voulais plus l'appeler parce que ce n'était que de l'agressivité. Je ne voulais plus l'appeler.
C'est ça.
Ma compagne l'a appelé deux fois, il a eu droit aussi de son agressivité. Elle s'est présentée gentiment. Voilà, je suis la compagne. Je vous appelle pour dire que il est prolongé de 15 jours. Il lui a répondu textuellement, ça commence à bien faire, va peut-être falloir arrêter. Mmh. Alors que j'avais les certificats médicaux qui certifiaient que je ne pouvais pas reprendre.
Mais François, ça n'est que de l'intimidation puisque vous êtes dans votre droit légalement. C'est pour ça que je vous dis, ça ne vous appartient pas. C'est ce que vous dit Laetitia aussi. Laissez-le dire ce qu'il veut.
Parce que là, si j'ai bien compris, dans tous les cas, il y aura une inaptitude et vous ne pourrez pas retourner dans ce restaurant, enfin dans ce traiteur.
Il y a eu une aptitude prononcée par le CMAIC, qui est la médecine du travail, une inaptitude, et je n'y retourne pas. Il m'a envoyé en recommandé un papier qui est obligatoire, c'est-à-dire un reclassement, mais qui ne correspondait pas du tout au poste. C'est-à-dire qu'il me proposait de revenir travailler aux heures que je faisais et de m'asseoir pendant 10 minutes. Le médecin du CMAIC, la médecine du travail, mon médecin traitant, ont jugé que ce n'était pas adapté. Donc, je lui ai renvoyé un papier recommandé par lequel je n'acceptais pas cette proposition. Alors, lui m'en a renvoyé un autre par lequel... que c'était tout à fait adapté, que enfin pour lui c'était je faisais exprès, donc après à la suite de tout ça, comme j'ai pas accepté, il était dans l'obligation de me licencier, donc chose qu'il m'a envoyé le 5 janvier on est le 20 et voilà, donc il tient à disposition les papiers de licenciement, les papiers pour le Pôle emploi, le solde de tout compte que je dois venir chercher et prendre rendez-vous avec lui.
Alors, il faut arriver à prendre votre courage à deux mains. Et c'est pas évident, hein. Je sais à quel point c'est pas évident, mais il faut saisir les prud'hommes. Tous les autres auditeurs ont raison. Faut pas lâcher. Il n'y a pas de raison qu'à chaque fois, ils s'en sortent bien, en fait, quelque part. Parce que vous êtes honnête, parce que vous avez toujours fait votre travail comme il fallait. Il y a un moment, voilà quoi. C'est pas à vous de payer tout ça.
Exactement. Et à un moment donné, il faut arrêter de le laisser définir qui vous êtes.
Ah ouais.
C'est pas lui qui définit qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes, vous savez quelles sont vos qualités. Ce que lui dit n'a aucune importance, si ce n'est l'importance que vous lui donnez. Si vous lui retirez cette importance-là, il n'a plus aucun pouvoir sur vous.
Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. c'est certain.
Laetitia, merci de votre appel et de ce témoignage chaleureux et encourageant. Merci beaucoup François. Merci. On a des dizaines et des dizaines de messages qui sont arrivés. Je peux même pas tous vous les lire, mais il y a Annick, il y a Janine, il y a Yvan, il y a Patrick, il y a Georges, il y a Michel, il y a Angélique. Il y en a plein. Donc ce que je vous propose, beaucoup de ces auditeurs ont laissé un numéro de téléphone pour que vous puissiez continuer cette conversation, qu'ils puissent vous conseiller ceux qui ont traversé la même chose ou d'autres. Si vous le voulez bien, nous on va se quitter, mais vous restez en ligne et Amandine va vous récupérer. Et elle va vous communiquer tous les coordonnées des gens qui sont là pour vous soutenir et vous aider dans cette épreuve que vous allez traverser haut la tête et dont vous allez sortir, vous verrez.
Je remercie vraiment de m'avoir écouté. Je remercie aussi tous les auditeurs qui m'apportent leur témoignage, leur soutien. Je les remercie chaleureusement et tout, vraiment, vraiment, parce que vraiment, je suis vraiment au fond du trou, là. Je suis un homme blessé.
Vous allez en sortir, parce que quand on est dans le fond du trou, on est juste au bon niveau pour donner un grand coup de talon et remonter la tête à la surface.
Je vous remercie.
Et je vais vous dire une dernière phrase qui était ma phrase de conclusion hier soir, mais vous n'étiez peut-être pas à l'écoute. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter. Alors croyez, François, que vous méritez le meilleur.
Merci.
Et ne lâchez rien. Restez en ligne, Amandine vous récupère tout de suite.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Merci à tout le monde.
Je vous embrasse. Et donnez-nous de vos nouvelles dans quelques temps, d'accord ?
Ouais, je vous promets.
D'accord.
Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Et c'est Thierry maintenant dont je vais faire la connaissance. Bonsoir à vous Thierry.
Bonsoir à vous.
Ouh, quelle belle voix.
Merci beaucoup, pareillement.
Alors je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène ?
Voilà, ça va que depuis quelques temps, je suis en difficulté sentimentale, on va dire. Voilà. Il y a une semaine, le week-end dernier, voilà, tout simplement, j'ai demandé à mon ex-compagne de mettre cadre sur table sur notre relation, voilà, puisque ça faisait quelques temps déjà qu'on était en pourparler, qu'elle avait déjà déménagé et tout dans ses affaires dans son appartement, dans son nouvel appartement, voilà. Néanmoins, entre-temps, il y avait beaucoup de hauts et de bas continuellement, voilà. Et depuis le week-end dernier, où je lui ai dit tout le monde, voilà, je ne sais plus où est-ce que j'en suis concrètement. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux concrètement, mettons carte sous table. Elle m'a tout simplement dit qu'elle ne voyait pas la suite avec moi, voilà, tout simplement.
Au bout de 4 ans, c'est ça ?
8 ans en relation, 8 ans.
8 ans, d'accord.
Voilà, une tonne de relations. Il s'avère que, à vrai dire, que la relation a débuté sur des mensonges et que par la suite, il y a eu beaucoup de choses négatives au début de la relation. Voilà.
Des mensonges de la part de qui ?
De ma part, tout simplement, voilà. De ma part. Puisque j'étais déjà en relation avec une autre personne, on s'est rencontrés inopinément, comme ça s'est pas décidé ni créé d'un coup, voilà, c'est tombé sur moi, voilà, et puis j'ai pris la décision de quitter mon ancienne compagne pour elle, tout simplement. Et ça fait les choses ne se sont pas passées aussi rapidement qu'elle le souhaiterait, puisque avec mon ancienne compagne, c'est plus de 10 ans de relation, donc du coup, il a fallu mettre les choses au clair et tout. Donc du coup, c'est passé déjà 2 ans. Néanmoins, j'ai fait mon choix de vivre avec elle, de faire mon parcours avec elle, tout simplement, et puis de fonder une famille, ce qui a été fait. Elle, je pense qu'elle attendait davantage de ma part, puisque elle pensait davantage aux grands événements qu'attend qu'une femme de son âge, tout simplement. Mariage et consort. Sauf que ma situation personnelle ne permettait pas. J'avais envie de me marier tout simplement avec elle, si c'est certain. Mais ma situation personnelle, par rapport à mon ancienne
vie. Vous n'êtes pas marié, mais vous avez eu des enfants avec elle.
Oui, tout à fait, oui.
Oui, c'est un lien fort quand même.
Oui, oui, tout à fait, oui.
C'est un engagement pour la vie. Hein.
C'est ce que je tente, tentais essayer de faire comprendre, voilà. Et que même s'il n'y a pas de bague ou autre chose, et que l'engagement que j'ai pris de faire des enfants avec elle n'était pas un engagement anodin. Donc, je ne décide pas de faire des enfants à n'importe qui, à la première venue dans ma vie, quoi, tout simplement. Donc, je pensais tout simplement qu'elle aurait pu comprendre ce genre de choses, mais malheureusement, il s'avère que les aléas de la vie font que on s'est perdu en cours de route. On n'avait pas les mêmes attentes, simplement.
C'est quoi les aléas de la vie pour vous ? C'est qu'il y a eu des accros à la fidélité ?
Pardon, vous avez dit quoi ?
Il y a eu des problèmes de fidélité d'un côté ou de l'autre ?
Elle ne me fait pas confiance, ce point-là, simplement. Malgré le fait que j'ai énormément changé par rapport à cela, pour faire simple, mon meilleur ami, avec qui j'ai fait les 400 coups sans souci, voilà, il n'y a pas de problème, mon meilleur ami m'a dit, mais franchement, mec, après tant de choses qui se passent dans ta vie, tant de choses que tu as pu faire dans ta vie, ça m'étonne que tu aies changé à ce point. Voilà. Donc, j'ai changé les choses. Je me suis amélioré dans ce terme-là. Éviter tout embrouille ou quiproquo qui pourrait amener à ce genre de sujet. Mais le fait est que, vu le début de la relation, je pense qu'elle a emmagasiné une colère en elle par rapport à cela, qui fait qu'elle ne peut pas me pardonner. Voilà. Elle ne peut pas me faire confiance à ce point-là.
Est-ce que vous avez été complètement fidèle pendant 8 ans ?
Oui.
Ok.
Oui. Sauf que, pour elle, les choses qui pour moi sont anodines, ne sont pas. Voilà.
Qu'est-ce qui est anodin pour vous, par exemple ?
Exemple. J'ai des amies féminines, voilà, avec qui je discute de tout et de rien. Mais pour elles, ces amies féminines sont potentiellement des rivales ou, soi-disant, c'est des télépathéticiennes en puissance, quoi. Puisque je les côtoie. Soit je les écoute, soit il s'est passé quelque chose entre elle et moi, ce qui est tout à fait faux, ou soit j'ai l'intention de le faire. Voilà.
Oui. C'est-à-dire que depuis le début, la confiance s'est jamais installée, quoi.
Voilà, la confiance s'est jamais installée.
Et donc, si elle passe chaque geste que vous faites ou chaque mot que vous dites à travers le filtre du manque de confiance, ça devient compliqué. Hein.
C'est un sujet sur lequel que j'ai essayé de mettre en, comment dire, de mettre des mots pour que je puisse comprendre sa vision des choses. Toutes les réponses que j'ai eues, c'est que ouais, j'ai merdé dès le départ et que maintenant elle a des coups, le seul truc à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Concrètement, si je lui ai répondu, je suppose que concrètement, si franchement j'avais une maîtresse ou une femme cachée dans son coin, je ne me prendrais pas la tête avec elle pendant tout ce temps pour rien. Voilà. Je pars du principe que si un homme a chez soi une femme avec qui il a décidé de faire sa vie et construire quelque chose de concret et qu'il aime, il se bat corps et âme pour cela. Voilà. Mais si dans l'autre sens, il a trouvé une autre paire de chaussures qui lui convient très bien et que chez lui c'est un problème perpétuel, cet homme, pour la facilité, ira trouver l'autre chaussure qui lui convient, tout simplement.
Donc vous, si j'ai bien compris, vous n'avez pas une autre paire de chaussures pour l'instant ?
Non, du tout, du tout.
Vos enfants,
non, j'ai pas d'autre chose. La plus grande a 12 ans, voilà, et la dernière a 6 ans.
Et comment est-ce que vous gérez la séparation alors là ?
Là est tout le problème, puisque maintenant, ça a les questions maintenant sur les enfants, et que la plus grande étant très loin à l'école, scolairement, voilà. Du coup, j'en vois que le week-end environ. Et j'ai quand même vacances, il y a des vacances. m'a expliqué en fait qu'elle trouvait ça abusé, tout simplement. Elle trouvait ça abusé que de la façon dont c'était la crise était installée et qu'elle ne comprenait pas le comment du pourquoi. Même si elle a eu les bouches de dispute qu'on a pu avoir devant elle, malheureusement pour elle. Donc, je vais lui poser la question, mais toi, qu'est-ce que tu ressens par ça? Essayer de parler, discuter, essayer de comprendre sa vision des choses, simplement. Elle me disait, franchement, par moments, que c'est abusé. D'une part, qu'elle trouvait la réaction de sa mère très abusée par moments. Et puis, d'un autre côté, elle ne peut pas se prononcer puisque ça ne le concerne pas. Donc, j'ai répondu qu'elle avait toute sa raison, que ça ne concernait pas et j'avais tort de lui.
Mais oui, c'est pas son rôle d'enfant hein, d'intervenir là-dedans.
Voilà, c'est pas son rôle. Donc du coup, elle est venue sur ce sujet-là tout seul et de fil en aiguille, on est arrivé là. Donc du coup, je lui ai tout simplement dit que je verrai avec maman tout simplement ce que l'on a et puis voilà. Suite à cela, depuis des vacances à Toussaint. Depuis les vacances à Toussaint, il y a eu un gros clash, un gros très fort clash, voilà. Et du coup, elle a pris son appartement, elle est partie, tout simplement. Jusqu'à présent, je n'ai pas non plus monté grief contre elle. Je ne vais pas non plus la pêcher de partir ou autre chose, puisque ce n'est pas mon but ni mon intention non plus. Voilà.
C'est quoi votre but, alors?
Mon but actuellement, déjà, c'est tout faire pour protéger mes enfants, en premier lieu. Voilà. Me refaire moralement, voilà, tout simplement. Et si, tant est, si peu que soit peu, essayer de la reconquérir, puisque je suis amoureux de cette personne. Mais ce n'est pas la priorité première, je pense que la priorité première pour moi, c'est essayer de sauver les meufs avec les enfants parce que c'est elle qui a passé le plus dans l'effort. Voilà.
Oui.
Voilà. Et jusqu'à présent, c'est madame qui a toujours décidé qu'il fallait faire comme ça, fallait faire comme si, fallait pas faire comme ça. Et si j'avais tenté de émettre mon avis sur le sujet, mon avis ne comptait pas. Fortement dans la balance, voilà. Donc du coup, tout comme je vous l'ai dit la dernière fois, que se plaignait de la situation, que sa vie était chaotique, merdique, tout simplement, voilà. Et j'ai simplement répondu, mais excuse-moi, mais qui a pris les décisions jusqu'à présent? Qui a pris ces décisions jusqu'à présent? Elle m'a regardé et puis elle s'est emballée en disant que oui, mais c'est de ta faute puisque la relation était biaisée dès le départ. Je lui dis oui, mais il y a prescription puisque ça remonte à plus de 8 ans déjà maintenant. Donc maintenant, les dernières décisions de ces dernières années, ces derniers mois, c'est toi qui les as prises. Je n'ai pas eu mot à dire. T'as pris ton appartement, t'as pris tes décisions de faire ce que tu voulais faire. Jusqu'à présent, tant mais comment j'ai tenu à être là pour les enfants et pour toi, pour les problèmes financiers et physiques, peu importe ce qu'il en est, même si ma famille est disloquée en 1000 morceaux et que je dois tenir compte de tout ça, mais elle ne l'entend pas de cette oreille-là. Voilà.
Et est-ce qu'elle, de son côté, vous croyez qu'il y a quelqu'un, quelque part?
Oui.
Ah.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire, vous pensez à qui, qu'est-ce qui serait passé?
Je pense que c'est entiché de bons conseils d'autrui, voilà. Et je pense qu'il y a quelqu'un derrière ça, qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans toute cette histoire.
Et c'est qui ce quelqu'un d'après vous?
Soit un ami proche à elle. Ou soit c'est quelqu'un venu de trois parts, ou quelqu'un qui a pu rencontrer inopinément dans son cercle d'amis, voilà. Mais je pense qu'il y a certes une lassitude de la situation, puisque ça fait quelques temps que ça dure déjà, mais mais je pense aussi qu'il y a une part de ressentie de la fierté en fait qui est faite de la relation, on va dire. Voilà. Et depuis ces dernières semaines, j'ai constaté un changement. Un changement au point de vue de son comportement avec son téléphone et tout. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un derrière ça qui m'anecdote tout ça. Et quand je pose la question, elle me répond que non, elle n'est pas prête pour ça. Son but, là, c'est déjà c'est de se refaire et s'occuper de ses enfants correctement. Mais je sais qu'au fond de moi, l'expulsion masculine, je sais très bien qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Voilà.
Et quand vous dites quelqu'un, vous pensez à un homme ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, en premier lieu, un homme. Mais je resterai à 60%, c'est un homme, et l'autre pourcentage, ce sera une de ses copines qui l'avait conseillé au départ pour plein de choses qui se sont malheureusement cassées la gueule, et que, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et finalement, c'est moi qui ai dû ramasser tout le bordel qu'il y a eu pour assumer ce qu'il y avait comme souci, voilà. Donc oui, je pense fortement qu'il y a quelqu'un qui te réussit à l'aider, non, voilà.
Oui, mais en même temps, c'est une grande fille, hein.
Oui, tout à fait, j'ai tout à fait d'accord avec vous. Ouais.
Si elle prend des décisions, c'est qu'elle veut bien les prendre.
Ben, le souci, c'est qu'elle prend des décisions, je parle de mon avis, voilà, justement. Elle prend des décisions, et quand la décision prise a des répercussions négatives sur autrui ou sur elle, le fautif, c'est moi.
Oui, mais là, ça ne va plus être le cas si vous êtes séparés. Elle peut plus tout vous mettre sur le dos.
Jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, c'est souvent sur cause de moi.
Oui, mais là vous êtes en pleine séparation, c'est normal que ce soit tendu. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous, Thierry ? Pourquoi vous m'appelez ce soir ? Qu'est-ce que vous souhaitez ?
D'une part, déjà j'appelle pour juste vider mon sang en premier lieu déjà, et ensuite voir un peu plus clair dans notre marasme sentimental et dramatique, voilà. Donc, en l'occurrence, franchement, vous ne pourriez pas m'aider puisque en étant clair avec moi, la relation était déjà biaisée dès le départ. Et plusieurs personnes de mon entourage proche m'a déjà conseillé de mettre un terme à tout cela. Et j'éprouve un sincère regret pour ce gâchis, puisqu'on avait tout pour réussir. Et pour une question d'attente, tout ce dont je me suis battu pendant plus de 8 ans, maintenant, plus de 8 ans déjà, surtout au sol, surtout par terre, pour je ne sais pas quoi. Voilà.
Vous avez l'impression d'un gâchis ?
Fortement.
Est-ce que vous vous êtes assez parlé pendant ces 8 ans ? Vraiment parlé ?
À chaque fois où on s'est vraiment parlé, c'était toujours pendant des clashs. Voilà.
Non, mais c'est pas constructif, ça.
Justement. Et je lui ai proposé une première fois de voir à l'aide de l'internet et voir un thérapeute de couple. Mmh. Elle n'a pas jugé l'importance de cette démarche. Voilà.
Elle n'a pas voulu. Jamais.
Non, là. Non. Elle a dit si je veux y aller, je peux aller tout seul pour expliquer mon cas, mais elle n'a pas besoin de faire ce genre de démarche. Voilà. Mmh. Autre chose que j'ai pu émettre. Disons qu'on s'est beaucoup concentré sur les enfants, en fait, depuis la naissance de la dernière, surtout, voilà. On s'est beaucoup concentré sur la naissance des enfants et on n'a pas beaucoup partagé de moments ensemble. Et quand la dernière a fini, c'était à l'école et commence à évoluer correctement, donc j'ai proposé plusieurs moments de pouvoir partager des moments ensemble et tout. Et à chaque fois, il y a toujours eu un souci ou
une excuse.
Une excuse, voilà. C'est toujours une excuse. Et le moindre excuse qu'il y a toujours en quiproquo, voilà, ne serait-ce aller au cinéma, prendre. C'est toujours une organisation, il faut prévenir un tel. Non, ouais, mais on ne peut pas faire ça comme ça parce qu'il y a ci, qu'il y a ça. La dernière fois, c'était pour un restaurant week-end. Je dis, bah, écoute, on fait garder les enfants par ta voisine. Et puis, on se prend une heure ou deux pour aller manger au restaurant tous les deux. Et puis, finalement, c'est arrivé que ma sortie m'excuse, oui, mais bon, voilà, je ne peux pas parce qu'il y a. Il y avait autre chose à faire, prévu, je ne sais pas trop quoi. Je dis, mais ça peut attendre. Mais non, on ne peut pas, parce que c'était comme ça, quoi. Voilà, c'est vraiment.
Est-ce que vous avez été heureux avec elle?
Oui.
Parce que là, tout ce que vous me racontez, c'est des moments pas très sympas, quand même. Hein. Pas de relation de couple, pas de dialogue, une fuite régulière.
On va dire qu'il y a beaucoup de eu de bas que de haut. Mais j'ai été heureuse au tout début de la relation, j'ai tout pas les. Les cinq premières années étaient magnifiques, voilà.
Ça veut dire que ça fait plus de 3 ans que ça n'allait pas.
Oui, tout à fait. Que ça allait, que ça allait tant mieux que mal, on tourne la baraque, qu'il y avait des moments de haut, de longs moments de haut, et puis ça replongeait. On ne sait pas pourquoi ça replongeait, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très concentré sur elle, on va dire, sur sa personne à elle, sur... Chaque année, elle fait un bilan sur soi. Et à chaque année, c'est la même période. Et chaque année, c'est toutes ces mêmes périodes-là où tout part en lambeaux. Voilà.
Mais c'est la première fois qu'elle part pour de vrai.
Non.
Ah non, elle est déjà partie.
Non. Oui.
Ah, vous ne m'avez pas dit ça. C'était quand?
Ça remonte à 2 ans. Ça remonte à 2 ans. 2 ans, effectivement, ça remonte à 2 ans, oui, voilà, 2 ans.
Et qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Alors, elle a pris les enfants pareil, elle est partie ailleurs?
Oui, pareil, oui.
Et qu'est-ce qui fait qu'elle est revenue?
On va dire que il y a eu du bon, il y a eu du très 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 bon, voilà. Malgré tout, les embrouilles qu'ils ont eues et tout le tracas qu'il y a eu par rapport à ce déménagement à la hâte, voilà. Mais moi, je n'ai jamais été, même si je n'étais pas pour, mais bon, c'est son choix, comme on t'a dit, elle est grande, elle est mature, donc du coup, je suis père des enfants, donc du coup, j'assume mon rôle de père, voilà. Et malgré ces difficultés qu'elle a eues par rapport à ce premier déménagement, ben, j'ai toujours été là. Et ça veut dire, de fil en aiguille, ben, la relation a évolué, voilà. Et du coup, on s'est rabibochés, comme on dit communément. Mm-hmm. Et du coup, la famille s'est recomposée, tout simplement, voilà. Il s'avère que durant l'été dernier, j'ai travaillé non-stop durant l'été dernier, puis je n'avais pas de vacances. Et du coup, elle a dû garder les enfants pendant tout l'été et c'était catastrophique puisque les enfants entre eux, c'est chien et chat, donc voilà. Donc du coup, c'était très compliqué pour elle et moi, j'avais des horaires de très compliqués aussi. Donc, pas possible de jouer mon rôle de père puisque je partais très tôt, je rentrais très tard. Et elle m'en a voulu pour ça puisque j'avais entamé un poste qu'elle ne pensait que j'accepterais, voilà, tout simplement. Mais comme tout le temps, chacun, il faut remplir le frigo, donc du coup, il faut faire des choix. Donc, mon choix a été de travailler pour pouvoir nourrir ma famille, tout simplement. Ouais. Essayer de nourrir ma famille. Malheureusement, ça ne s'est pas fait comme prévu, puisque au terme du contrat, ça ne s'est pas fait concrètement. Et maintenant, on a voulu pour ça, voilà. Et on n'est pas parti en vacances. Pas partir en vacances, du coup les enfants exécrables, donc du coup ça a une accumulation de tout qui fait que au niveau des vacances de Toussaint, ça a explosé, qui est là, voilà, et elle est partie, voilà.
Oui, je pense qu'il n'y a pas que ça, elle vous a quand même pas quitté juste parce que vous n'aviez plus de boulot et pas assez d'argent pour partir en vacances.
Non.
C'est un mode de fonctionnement un peu qui dénote un manque de maturité quand même, hein.
Par rapport à...
Bah elle, sa manière de se comporter, c'est ce que vous me dites. Bah... Quand on est marié, quand on est en couple et qu'on a 2 enfants, Je déménage, je change d'avis, je reviens, 2 ans après je recommence, je repars. C'est un mode de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le « je t'aime, moi non plus », mais c'est extrêmement perturbant de vivre comme ça.
Ben, c'est tout à fait ce que j'ai relevé et que je lui ai notifié d'ailleurs, puisque généralement, je préfère parler par... quand il y a des grandes discussions, je préfère écrire que parler. Parce que finalement, il y a toujours des mots qui ne vont pas aller, il y a toujours faut un ton précis, il y a tout un protocole pour discuter, on va dire. Voilà. Et que moi, me connaissant, je vais parler bout de décoffrage, et mes mots vont peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes.
Oui, comme on dit, les mots dépassent la pensée quelquefois.
Voilà, des fois.
Et
voilà.
On regrette.
Donc du coup, voilà, je préfère parler par écrit, par message ou par sur papier, mettre les choses au clair et que jusqu'à présent, j'ai eu des retours. J'ai eu des retours par rapport à mes écrits, voilà. Mais néanmoins, sur le fond du problème, je n'ai jamais eu de retour, en fait. Voilà.
J'allais vous dire, qu'est-ce que concrètement elle vous reproche ? Parce que là vous parlez plus d'état d'âme, de choses comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a à vous reprocher ?
Ben, elle me reproche, là, à la dernière nouvelle, elle me reprochait mon début chaotique avec elle, et surtout le manque de confiance en moi. Voilà.
Oui, ce qui l'a pas empêché de partager 8 ans de sa vie avec vous et de vous faire des enfants.
Voilà, tout à fait.
Donc c'est un peu comme si elle brandissait le même panneau à chaque fois, quoi.
Ben oui. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça.
Mais il n'y a rien de concret. C'est-à-dire, elle ne vous reproche pas de l'avoir trompé, elle ne vous reproche pas d'avoir fait une erreur quelque part, d'avoir fait, je ne sais pas.
Si, tout à fait. Mais elle me reproche d'avoir trompé autre chose, mais sous des situations qui sont, pour moi, pas valables, pas crédibles, puisque à chaque fois où elle a eu des suspicions, des soupçons de tromperie, je lui ai montré par A plus B, par preuve écrite, par preuve téléphonique aussi, parce que néanmoins, elle m'a soupçonné d'avoir une relation avec une tierce personne, et il s'est avéré qu'en apportant cette tierce personne, les choses que j'avais dites, c'était vrai, tout simplement.
Dites-moi, voilà. comment est-ce qu'elle a grandi ? Ses parents étaient comment à cette femme ?
Très compliqué.
Est-ce que ses parents étaient unis ou est-ce qu'il y a eu un divorce aussi quand elle était petite ?
Non, ses parents sont toujours ensemble, mais c'est une situation familiale très, 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 très compliquée. Très, très, très compliquée.
Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle a dû, en garder certaines blessures qui font qu'elle a du mal à se construire et à être stable.
Ben, pour faire ça, elle a coupé les points avec ses parents.
Oui.
Puisque dans son enfance, c'était très, 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 très violent dans son enfance. Et du coup, elle a coupé les points avec ses parents. Voilà.
Donc là aussi, elle est dans des scénarios de rejet, quoi.
Ben, oui, tout à fait. Moi, personnellement, je ne vais pas sur ce terrain-là, puisque ça ne me concerne pas, on va dire. Voilà. Même si je partageais ma vie avec elle, puisqu'il faut mettre les choses claires. Mais je n'ai jamais entamé ce genre de sujet, hormis les seules fois où elle m'en a parlé concrètement. Je n'ai pas intervenu de ce sujet-là, quoi. Concernant ses parents, il s'est passé ce qui est passé, je ne pourrais pas refaire le passé.
Voilà, bien sûr que non, quoi. Bien sûr que non, mais ça permet de comprendre sa manière de fonctionner.
Moi, j'ai pu comprendre par mon analyse qu'elle était un peu en mode autodestruction, voilà.
Et c'est ça, quand je vous parlais de rejet, c'est qu'elle elle détruit, pour une raison ou pour une autre, les liens avec les gens avec qui elle était liée, les parents, son compagnon.
Oui, mais c'est pas la première fois, en fait. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, même avec ses amis... il y a quelques années, elle s'était pris la tête avec une de ses meilleures amies. Et finalement, de compte, elles se sont revues quelques années après.
Elle rejoue le même scénario, finalement, dans plein de domaines de sa vie. Est-ce qu'elle travaille ?
En ce moment, non.
Donc, elle est pas stable non plus dans le travail ?
Non, en ce moment, non. Non,
oui, bien sûr, oui. Ouais, ça va être compliqué si elle n'accepte pas de voir un thérapeute. Hein.
Ben, au départ, elle devait voir quelqu'un. Finalement, ça s'est pas fait. Elle, de son côté, elle fait un travail personnel et tout. Finalement, ça s'est pas fait. Et de surcroît, elle avait vu quelqu'un, un médecin, et qui avait prodigué un confrère. Et là aussi, ça s'est pas très bien passé. Donc, du coup, je pense qu'il y a eu un ras-le-bol aussi par rapport à cela. Donc, voilà. Donc, je pense qu'elle est en mode auto-destruction, concrètement. Et que là, maintenant, j'aurais beau dire, beau faire, beau montrer les choses, que ça n'arrangera rien du tout. Voilà.
Oui.
Ça n'arrangera rien du tout.
Mais pourtant, vous me disiez que vous avez encore des sentiments, vous.
Oui.
C'est ça qui est compliqué, j'imagine.
Super compliqué. Quelqu'un.
Oui.
Aimer quelqu'un. Même si cette personne vous détruit vos projets, concrètement, même si ça prend du temps, même si on ne sait pas faire de nos jours, mais bon, on essaie de faire que ça tienne la route, voilà, et que la personne que vous aimez plus au monde détruit votre idylle sur un coup de tête, sur un énervement, sur un mot, sur un changement d'humeur.
Oui, sur des choses qui ne sont même pas concrètes ou réelles.
Non, du tout. Mmh. C'est des substitutions. C'est plutôt des soupçons, sous des allusions ou autre chose, quoi.
C'est son propre malaise à elle qui s'est exprimé, là, en fait.
Ben, c'est l'impression que j'ai.
Elle a l'impression d'être en permanence trompée, d'être en permanence dans des situations où elle ne peut pas avoir confiance. Et du coup, elle interprète tout.
Ben, elle interprète tout. Elle a perdu confiance en elle. J'ai remarqué qu'elle avait perdu confiance en elle sur certains trucs. Et quand j'essaie de la motiver sur un autre sujet, quand j'essaie de la motiver simplement, elle me rejette.
Ouais. Et non, je pense vraiment qu'elle a besoin de voir quelqu'un et de faire une thérapie. Vous, ce que vous voudriez vraiment, c'est qu'elle revienne ?
Avant qu'elle revienne, qu'elle règle ses problèmes personnels.
Et voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Peut-être pourriez-vous lui écrire une lettre en lui disant sincèrement ce que vous m'avez dit ce soir, c'est que pour vous les sentiments sont là, que vous pensez qu'il y a encore un chemin à faire ensemble et qu'il faut d'abord qu'elle aille régler certaines choses, et que ce mode de fonctionnement répétitif souligne bien qu'il y a un problème chez elle. Il y a une blessure qui n'est pas réparée, là.
Vous savez quoi ? C'est quelque chose que j'ai déjà fait.
C'est-à-dire ?
C'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai... Oui. C'est un sujet.
Lui dire ça ?
C'est un point. Voilà, c'est un point que je lui dis. Je lui dis, écoute, j'ai des sentiments pour toi qui sont réels et puissants et qui sont là, voilà. Mais néanmoins, je sais pas dans quoi je vais.
Bah oui, tout ça est très instable et donc pas très sécurisant pour la suite.
Voilà. Donc, elle me reproche de ne pas avoir pris les décisions au moment T de fiançailles, de mariage, tout ça. Mais je ne veux pas prendre des engagements de fiançailles et de mariage si la personne avec qui je dois m'engager n'est pas stable.
Il faut que vous protégiez aussi, hein, bien sûr. C'est pour ça que je pense que la seule chose à faire, et vous avez raison, c'est de lui dire vos sentiments, mais de lui dire aussi votre prudence à vous. Et peut-être de lui mettre le deal entre les mains en disant que s'il y a quelque chose encore à vivre ensemble, c'est uniquement si elle se pose et qu'elle soigne un peu ses blessures à elle.
Ça, c'est très compliqué. Enfin, entendre quelqu'un qui a déjà les oreilles très, très, très fermées. Voilà.
Et oui,
parce que pour elle, j'ai son mal à elle, c'est moi. C'est ma vie qui fait que son mal est présent. Voilà.
Il faut qu'elle comprenne qu'elle a une blessure qui date de bien avant vous. Thierry, je suis désolée, l'émission se termine. Il est bientôt 1h du matin.
Oui.
Prenez soin de vous.
Je vous remercie.
Faites attention à vous aussi, quand même, dans cette histoire.
Non, vous inquiétez pas.
Et à vos
enfants. Vous inquiétez pas, je suis là.
D'accord.
Merci à vous, au revoir.
Merci de votre appel, Thierry, au revoir. Merci à tous, Thierry, Laetitia, Françoise, Catherine, Sarah, merci à vous tous qui avez été très nombreux ce soir à participer à l'émission par SMS. Demain soir, à ce micro, c'est Sophie Peters que vous retrouverez à partir de 22h30. Moi, je vous retrouve vendredi prochain à 22h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous quitte sur cette citation. Si on ne voulait qu'être heureux, ce serait bientôt fait, mais on veut être plus heureux que les autres. Et c'est très difficile parce que nous croyons toujours que les autres sont plus heureux qu'ils ne le sont en réalité. Passez une bonne nuit et je vous retrouve vendredi prochain.